Ces jours, en voulant préparer le message, poser la question, « Mais Seigneur, tu sais, on est censé faire la suite de Colossiens. » Rigolent ceux qui savent. Et puis, je priais, « Qu'est-ce que tu désires vraiment apporter ?» Et puis tout d'un coup, une référence qui vient dans ma tête très forte. Galates 5, 22. Et puis moi, Galates 5, 22. Un blanc. Mais vous savez ce que c'est un blanc? C'est un verset tellement connu que tu le sais, mais là, t'es là, puis tu sais plus. Tu sais plus ce que c'est. Galates 5, 22. Qui parmi vous sait ce que c'est Galates 5, 22? Plus fort, j'entends pas. Les fruits de l'esprit, exactement. J'ai couru à la Bible, j'ai regardé, j'étais là, mais bien sûr, c'est pas possible ça. Des passages si importants, mais on passe vite des fois à côté. Galates 5, 22. Et il y a cette notion du fruit de l'esprit, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent quand on regarde sur internet fruit de l'esprit, on a des images, et puis il y a 15 000 fruits. Bon, c'est pas écrit fruit au pluriel, hein, c'est écrit fruit au singulier, dans la parole, c'est le fruit de l'esprit. Et j'aime ça parce que c'est comme une orange, pour donner une image, hein, il y a plein de petits morceaux. Ça donne un fruit avec plein de petits morceaux. Alors, il y en a, ils croquent dedans à pleines dents, et puis il y en a, ils arrachent les petits morceaux les uns après les autres. Le fruit de l'esprit. Ce que Dieu veut mettre au fond de nous, et ce que nous sommes censés, en fait, vivre en tant que chrétiens. Et c'est vrai que quand on regarde le texte, ça peut surprendre. Il y a une foultitude de choses. On connaît des fois les mots, puis des fois, certaines traductions, on ne connaît même pas les mots qui sont indiqué dans ce fameux fruit. Alors, ce matin, j'aimerais que pour certains, ça puisse être une graine qui est semée, pour d'autres, que ça puisse être le petit coup d'arrosoir, pour faire plus, ou pour certains encore, que ce soit le soleil qui brille sur le fruit. Là où nous en sommes, Dieu nous connaît, n'est-ce pas? Alors, j'ai juste envie, rapidement, de lire le contexte dans lequel est posé Galates 5, 22, et je vais lire Galates 5 à partir du verset 13 jusqu'à Galates 6, verset 2. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Je vous rappellerai le message que j'ai donné qui avait ce thème-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Verset 22. Et là, je ne saute pas, c'est le suivant. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, alors marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois pas aussi tenté. portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Voilà le contexte dans lequel se trouve ce fameux Galates 5:22. C'est un big challenge, hein, quand même. Et c'est vrai, souvent on se dit, bon, le fruit de l'esprit, comment le vivre, c'est quoi ces choses-là? Alors on lit le passage, on le connaît par cœur, et puis on dit Alléluia! Mais on ne réfléchit pas à ce que ça veut dire. Et des fois, et moi ça a été mon problème toute mon adolescence et même bien après, comment vivre ces choses? Petite parenthèse, Colossiens 3, si vous savez, c'est ce que j'aurais pris aujourd'hui, et c'est là que j'ai trouvé que c'était marrant, les petits clins d'œil de Dieu. La notion de chair et d'esprit y est clairement mentionnée dans les versets 1 à 4, mais en tant que les choses sur la terre et les choses d'en haut. Même ce qui reprend et demande de lâcher s'y trouve dans les versets 5 à 9. Et même le fameux Galates 5:22 y est mentionné, mais sous une autre forme dans les versets 12 à 14. Donc c'est marrant que je pose la question à Dieu. Voilà, Colossiens 3, t'es d'accord de faire ça? Puis qu'est-ce qu'il me renvoie? Il me renvoie à Galates 5:22 dans lequel il y a tout ce résumé que nous venons de lire. Ça, c'est ses clins d'œil et je trouve ça extraordinaire. Comme ça, on pourra passer à la suite de Colossiens les prochaines fois, si on y arrive. Ok, s'attacher, si on voit le fruit de l'esprit faire partie d'un tout ou d'un fonctionnement de vie, c'est pas un bonus, le fruit de l'esprit. C'est censé être notre témoignage de vie. On va un peu voir, hein, toutes ces choses, vous n'en faites pas. Souvent, on essaye de marcher avec Dieu et on attend que certaines choses nous tombent dessus. Seigneur, regarde, j'ai prié plus, j'aimerais qu'il y ait plus d'amour dans ma vie. Comme si on essayait de marchander les choses avec Dieu. Mais en fait, le fruit de l'esprit fait partie de notre héritage. Ça fait partie de ce qui nous appartient. Et on doit apprendre à le choisir. Et le choisir, c'est un défi. Choisir de marcher dans la paix, c'est un défi. C'est pas attendre que la paix me tombe dessus. Choisir de témoigner l'amour, c'est un défi. Pour toutes ces choses, par contre, n'hésitons pas à les réclamer à Dieu. Et à dire, montre-moi comment. Et à oser faire les pas dans nos vies qui nous permettent d'y accéder. Quelque part, on est participant avec Dieu. C'est comme si on essaye de faire pousser une petite fraise. Ben, il faut bien que nous, on l'arrose, mais c'est Dieu qui s'occupe du soleil, c'est bien Dieu qui s'occupe de l'eau qu'on lui donne, c'est bien Dieu qui s'occupe de la terre, c'est lui qui donne la vie. Mais nous, il faut bien qu'on l'arrose ou qu'on enlève la petite chenille ou bien qu'on remue la terre. Je ne suis pas doué en la matière, donc je ne sais pas si tout ce que je dis est très juste. Mais c'est notre participation de veiller à ce que ce fruit naissent et deviennent beaux. Donc nous sommes participants avec Dieu de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il a remis entre nos mains. Si on attache un tuyau sale à un robinet, si on veut laver notre voiture, soyons pas surpris de l'eau qui en sort. Si l'eau est sale, c'est peut-être qu'on n'a pas fait attention au tuyau d'arrosage avant, qu'on l'a laissé traîner je ne sais où. Peut-être laissons l'eau couler, l'eau qui est pure, qui vient du beau réservoir, laver le tuyau avant d'arroser la voiture. Mais je crois que c'est exactement la même chose dans nos vies. Travailler à pouvoir vivre ces choses. Le fruit de l'esprit, je le répète, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. On va voir d'autres mots dans la suite. La douceur, la tempérance. Une autre traduction pour le mot « fruit », c'est « résultat ». Si on prend le mot hébreu de ce « fruit » dans le texte, il a la notion du résultat. On pourrait presque dire le verset Galates 5:22 en disant « mais le résultat de l'esprit, c'est ». Donc quelque part, ça peut nous faire réfléchir où nous en sommes, non pas dans une culpabilité, c'est faux, parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais où c'est que j'en suis dans ma relation avec Dieu ? Quel est le résultat de ma vie? Comment ça coule ce que Dieu m'a donné plus loin? Et là, Dieu il nous montre. T'as vu, là, il y a peut-être encore un caillou dans le tuyau d'arrosage. C'est un challenge. Prenons juste 10 secondes de silence. Fermons nos yeux. Et puis regardons, quel est le résultat du fruit de l'esprit dans nos vies? Prenons juste un petit instant. Dans Matthieu 7, 17, c'est écrit « Trouvera-t-on des figues sur des chardons ?» En fait, le fruit est le résultat de tout un processus. Le baobab, il n'est pas légende le jour où il est planté. Un arbuste, un arbre, c'est tout un travail. Alors on peut reconnaître un arbre à ses feuilles, on peut reconnaître, pour ceux qui ont l'habitude, un arbre à ses écorces, mais le témoignage de ce qu'est l'arbre, c'est le fruit que nous cueillons. Le fruit de l'Esprit, un témoignage de nos vies connectées au Saint-Esprit. Et on va y trouver en premier l'amour. Et cet amour-là, c'est celui que nous connaissons quand on dit « voilà, on va faire une bonne agape après le culte ». Mais qu'est-ce que c'est réellement, rapidement? Ce n'est pas un amour de tolérance. En fait, l'agape, c'est un temps d'engagement. C'est le même mot qui est utilisé dans 1 Corinthiens 13, hein, tout ce chapitre sur l'amour. L'amour, c'est un engagement. Au travers de cet amour, les choses vont couler. Et c'est tellement important. Si on n'a pas cet amour, nous dit 1 Corinthiens 13, nous sommes comme des cymbales qui résonnent. Puis une cymbale qui résonne, quand le batteur, dans le vide, tout d'un coup, il tape sur la cymbale, ça dérange. Il faut qu'il y ait un tout pour que cette cymbale soit belle. Mais une cymbale toute seule, ça dérange. Ça fait un bruit un peu... C'est un amour, l'amour qui est partagé dans ce texte-là, c'est un amour de relation, c'est un amour qui accueille, c'est un amour qui aime chèrement. Un amour qui préfère. Pas dans un cadre de favoritisme, dans un cadre de « je préfère mon prochain, quel qu'il soit ». Il y a un attachement particulier. C'est un amour d'amitié. Pas juste, toi, je l'aime bien. C'est un amour qui pousse à la bonne volonté et à la bienveillance. Voilà ce que c'est l'amour. Wow! Il est beau ce petit morceau, ce petit quartier du fruit, n'est-ce pas? Cet amour, cette saveur du fruit de l'esprit, ça doit être travaillé tous les jours. Et puis le meilleur moyen, c'est d'être connecté à Dieu. En chaque instant. Et lorsqu'on n'y parvient pas, ben, osons, Seigneur, là, j'ai pas réussi. J'ai besoin de ton aide encore. Et petit à petit, des choses changent. Et plus on le vit, plus on le travaille, plus on réalise là où il n'y a pas, plus on apprend à fonctionner autrement. Plus on se laisse connecter par Dieu, plus les choses changent. La joie. Soyez toujours joyeux, dit Paul dans 1 Thessaloniciens 5. La joie. Toujours joyeux. Vous êtes pleinement joyeux, n'est-ce pas, ce matin, tout le monde? Vous avez passé une semaine pleine de joie débordante, n'est-ce pas? Il y en a des qui, c'est vrai, heureusement. Mais en fait, il s'agit d'une joie qui a une cause. C'est pas une joie, je suis joyeux, j'ai le sourire. Ça, c'est peut-être des fois un beau masque qu'on a pris l'habitude. Il est bien de temps en temps, ce masque, hein? On est d'accord, hein? Non. On a le salut en Jésus. On a le salut en Jésus. On a la réconciliation avec Dieu le Père. C'est Dieu qui nous prend dans ses bras tellement il nous aime. Qui que nous soyons. On parle des choses de Dieu, il y a quelque chose au fond de nous qui vrombit. C'est le bon mot, vrombir. Qui réagit, qui se coule, hein? Comme vous dites. Ça vibre en nous quand on parle des choses de Dieu, n'est-ce pas? Et il y a cette joie. On peut être dans la tristesse et le deuil, je ne sais pas vous, mais c'est vrai que des fois, et tout d'un coup on pense à la croix, où on est en train de prier, ou tout d'un coup il y a un chant de louange qui peut venir, et il y a cette joie profonde. C'est ça la joie. Et même dans la disette ou dans les difficultés, on a cette joie au fond de nous. Et cette joie, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais si vous partagez les choses de Dieu autour de vous, même dans des moments difficiles, il y a comme un feu. Il y a une joie au fond. C'est ça, la joie. C'est de cette joie dont il s'agit pour le fruit de l'esprit. Est-ce que nous avons cette joie? Autrement dit, est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que nous réalisons son amour? Ce cadeau de la croix. Alors remercions-le sans cesse. Et plus vous le remerciez, plus la joie elle est profonde, plus on découvre combien il est fidèle et nous accompagne. Rappelez-vous, je vous avais aussi fait un partage là, sur, avec des actions de grâce. Après, on a la paix. Plusieurs fois, j'ai partagé la notion du shalom. Cette paix, une paix qui n'est pas juste une bonne relation. Quand on veut souhaiter le shalom à quelqu'un, la paix, en fait, on lui souhaite l'accomplissement partout. Dans ton travail, je te souhaite un plein accomplissement. Dans ton couple, je te souhaite un plein accomplissement et un amour solide. Quand je te dis shalom, je te souhaite que dans tes finances, ça se passe bien, que dans ta santé, tu trouves la paix et le repos. Quand on dit ce mot, il y a l'ensemble de vouloir la plénitude pour l'autre, pas juste « sois en paix, cher ami ». Adonai Shalom, c'est le nom de l'Éternel, ce Dieu de paix. En lui, il y a cet accomplissement, en lui, il y a cette plénitude. Et dans la plénitude, quand il y a l'accomplissement, c'est sécurisant. Quand on découvre que malgré les circonstances, Dieu nous aime, ça devient très sécurisant. Quand on découvre dans les difficultés que Dieu nous prend par la main, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de larmes, mais ça devient sécurisant. C'est cette paix-là. Une paix qui donne une meilleure vision des choses. Une paix qui est liée à une espérance. Et cette paix est au fond de nous, même en temps de conflit, et si on a pris l'habitude de prendre confiance en Dieu. Paix basée sur le salut, paix basée sur notre éternité, une paix remplie de cette espérance de tout avoir en lui, une réjouissance de ce que nous bâtissons, parce que Dieu accompagne et accomplit, une paix par rapport à ce qui nous attend, parce que Dieu sait où il nous conduit. Et avec le Saint-Esprit qui nous révèle cet amour d'enfant de Dieu que nous sommes, il y a cette paix. Papa s'occupe de moi. La patience. Frédéric nous en parle souvent de la patience. Parce que la patience, c'est vrai, c'est quelque chose de tellement important. On est dans la génération fast-food, tout de suite et maintenant. Que ce soit au travail, que ce soit au magasin, que ce soit au restaurant. Et c'est dur. Et résultat, 40 jours, Moïse dans le Sinaï, où j'ai un blanc maintenant, je ne sais plus quel prophète dans la Bible, il lui pose une question, que pense l'Éternel de ça? Il se retire, puis c'est écrit, 10 jours après, il a reçu la réponse, il vient et il leur donne. Avons-nous cette patience que Dieu sait quand il parle, à quel moment, quand les choses arrivent? Oh, ça c'est chez moi quelque chose que j'ai de la peine. La patience. C'est lui qui touche les cœurs, c'est lui qui fait grandir. Au rythme de chacun, j'ai découvert un jour qu'il y en a qui comprenaient les choses de Dieu avec un fonctionnement très carré, très, j'allais dire, architectural, très, très ingénieur. C'est clac, 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 clac. Il y en a, on leur dit, comme aux enfants, on leur dit, c'est comme ça pour eux, paf, c'est la révélation. Il y en a, ils ont besoin d'étudier le texte pour pouvoir comprendre quelque chose. D'autres, ils entendent le verset, puis c'est bon. Et puis après, on a tous des chemins de vie où Dieu nous parle de manière ou d'autre. Résultat, on est tous différents. Donc, les mots que j'utilise ce matin, certains les comprendront d'une manière, certains d'une autre. À partir de ce moment-là, patience, Yann, c'est pas toi qui touches les cœurs. Je prie pour mes enfants, je les enseigne. Patience, Yann, c'est pas toi qui touches les cœurs. Faisons ce qui est juste, mais quelque part, cette patience, elle a aussi une résonance avec la confiance en Dieu. Mais elle a aussi la notion de persévérance et d'endurance. Tenir bon. Oh, c'est dur, Seigneur. Tiens bon, encore combien de temps? Seigneur, si tu ne reviens pas maintenant dans cette situation, oui. Persévérance et l'endurance, la lenteur dans l'action. Pourquoi? Parce que des fois, on reçoit des informations, paf, on a la réponse tout de suite. la patience, peut-être des fois avant de réagir, c'est dur là aussi. Moi qui suis une personne sensible, la réaction est souvent très instantanée chez moi. Au lieu de poser, réfléchir, remettre entre les mains de Dieu, avant de pouvoir agir. Ça fait partie de la patience. Un peu comme tourner la langue cette fois dans la bouche, avant de parler. Ça fait partie de la patience. Et en même temps, cette patience, elle nous aide dans la tranquillité. La tranquillité. Dans les épreuves de la vie. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Est-ce que ça veut dire que dans la vallée de l'ombre de la mort, je vais crier « Alléluia, youpi, tout est parfait » Ça ne s'appellerait pas la vallée de l'ombre de la mort, sinon. Hein. Mais Dieu est avec, dans nos souffrances, dans nos difficultés, quelque part à prendre cette confiance en Dieu. La patience. La bonté. La notion de bonté est d'avoir une bonne disposition, une droiture de cœur. Dans la bonté, il y a être, dans cette notion de bonté, il y a être agréable, plaisant, droit, honorable. C'est plus une attitude qu'une action, en fait. Là, c'est d'être prêt à pour quelque chose de bon. Une notion d'être bien disposé, ça, c'est quand même tellement important. Je fais la différence entre « Zut, je voulais t'offrir une fleur, mais j'ai oublié. » C'est l'intention qui compte. C'est pas ça la bonne disposition, on est d'accord. C'est avoir cette attitude de cœur, d'être bien disposé. Et le problème, c'est que le bien disposé, comme tout ce qu'on vient de voir, il n'est pas envers nous-mêmes. Il est envers l'extérieur. Je rappelle, ce fruit de l'esprit est un témoignage autour de nous. Ça fait partie de l'identité de Dieu, comme nous le rappelle Paul dans 1 Thessaloniciens 1, verset 11. C'est ses desseins bienveillants envers nous. Il a cette bonne disposition, Dieu a cette bonne disposition envers chacun. C'est son cœur. On passe à la bénignité. Quel mot fabuleux. J'ai beau l'avoir lu 25 fois, j'ai toujours de la peine, tu me demandes de la rue, ça veut dire quoi? Je te dirai, je ne sais pas. La bienveillance. C'est plus accessible, on l'a chanté ce matin en plus. C'est un autre sens de la bonté en fait. C'est cette bonté qui traduit la gloire de Dieu. Quand Moïse demande à voir la gloire de Dieu, Dieu lui indique son caractère de bonté. Exode 33, 18, 19. Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté ». Fais-moi voir ta gloire, je vais te montrer ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Voilà ce que Dieu lui dit quand il lui dit, montre-moi ta gloire. Grâce, miséricorde, bonté. Waouh ! Là on commence de comprendre les versets qui disent, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça il le disait déjà à Moïse avant. Des bonnes choses, une intégrité, quelque chose de vertueux, de doux, faveur, droiture, qui s'engage. Voilà cette bienveillance. On va au soleil pour bronzer, on est tous d'accord. Allons dans la présence de Dieu pour devenir bienveillants. Laissons-le nous remplir. Demandons-lui son regard, sa vision des choses. Osons et testons. Mais ces fois, le pas d'oser, il est dur. Alors, engageons-nous. Qui disait la fidélité. L'autre mot, pour certaines traductions, il dit la foi. Et j'aime ça, parce que quand j'ai cherché le mot fidélité, ce qu'il voulait dire dans le texte, j'étais là, punaise, il y a cet engagement à la foi qui est très fort. Et regardant d'autres traductions, j'ai vu que c'est le mot foi qui était traduit. Une foi persuadée. C'est presque dire deux fois la même chose. Une foi persuadée, une foi qui croit fortement au point de rendre calme. Et ça rejoint l'autre saveur qu'on a vu avant. Une foi active pour gagner quelqu'un d'autre ou lui plaire. C'est je crois, je vais me mettre à disposition pour. La fidélité, une attitude d'obéissance. Mais aussi une attitude qui sait convaincre, pas dans un cadre d'écrasement, dans un cadre de si je m'engage pour l'autre, et si je suis posé et que j'ai des fondations sûres et solides, je transmettrai. Et là, il y a cette confiance pour convaincre. N'oublions pas, c'est Dieu qui convainc. Pour encourager, pour rassurer même. Alors apprenons à connaître notre Dieu, celui qui veut être notre ami et celui qu'on a le droit d'appeler Père. C'est aussi dans le mot fidélité, j'ai trouvé le mot filiation. Tiens, dans cette notion de fidélité, il y a cette relation père-fils, père-fille, parent-enfant. C'est impressionnant, mais dans un sens, dans le sens du jeune, célibataire, à la maison, sécurisé auprès de son papa, qui s'attache à lui. Pas dans un cadre de fiançailles ou autre. Il y a vraiment cette fidélité, c'est mon père. Il y a cette fierté, cette confiance. La douceur, ça touche la gentillesse, l'amabilité, être doux dans nos échanges.
Oui, ce que tu vis dans ta vie n'est pas bien.
C'est peut-être pas ça la douceur. La douceur, c'est d'avoir cette attitude douce envers chacun. Ça nous aide à dire peut-être les choses autrement. Ça nous aide à peut-être à réagir aussi d'une manière douce plutôt que paf, le gros pétard. C'est avoir une bonne disposition d'esprit. C'est le même mot qu'on trouve dans Matthieu 5:5, les béatitudes. C'est les débonnaires qui hériteront la terre. Les débonnaires, c'est ces gens remplis de douceur. D'une douceur excessive, d'une douceur même faible, naïve. Une douceur parce que de toute façon, ils sont bons. L'autre, il peut être méchant, moi je vais rester bon. C'est une douceur qui surprend, mais c'est cette douceur-là que nous sommes censés vivre. Découvrir, goûter. Dieu nous donne accepter les circonstances comme si Dieu nous accorde un bienfait. C'est un peu difficile, il n'y a pas de recherche de notre propre intérêt. On reconnaît dans la justice de Dieu, on en reconnaît cette douceur dans la justice de Dieu, ou les circonstances que Dieu est toujours présent dans le but et dans la possibilité de nous faire grandir. Cette douceur, elle trouve le calme dans les circonstances. Et elle est en admiration devant Dieu dans les circonstances. Et elle peut dire, Seigneur, là c'est hardcore, c'est ultra difficile ce que je vis. Mais où veux-tu m'emmener? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'est un regard incroyable que celui de cette douceur. C'est quelque chose qui va faire qu'on ne va pas discuter, remettre en question, mais au contraire, on va remercier Dieu parce qu'on voit où il nous conduit. On voit la vie qui en découle. En fait, c'est une clé de la vie. Alors, ça ne veut pas dire baisser les bras. Je pense qu'avec ce que j'ai dit, on le comprend. Mais par exemple, ça peut nous aider à comprendre et accepter Romains 8, 28 qui nous dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ce n'est pas un lâcher prise, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une résilience, quoique je ne suis pas sûr du mot résilience. C'est vraiment « Le Seigneur sait où il me conduit ». Avec cette douceur, voyons combien Dieu est au-dessus. Dans un but de nous rapprocher de lui, nous hériterons la terre. Des portes s'ouvriront auxquelles on n'avait pas pensé. Et notre regard devient différent. Et la tempérance, l'autre mot pour tempérance, c'est maîtrise de soi. C'est une sorte de contrôle de soi-même. C'est une vertu. Être le maître de sa vie. Le maître de son vécu et de ses sens, de ses émotions, de sa chair. Vous savez, les émotions sont quelque chose d'extraordinaire, mais les émotions peuvent être quelque chose qui nous détruit si on se laisse guider par les émotions. Mais si Dieu nous les a données, c'est qu'elles sont une richesse. Mais la maîtrise de soi peut nous permettre d'apprendre à les gérer, pas de les étouffer. Mais avec ce qu'on a vu avant, quand tout d'un coup il arrive quelque chose, on aurait envie de jaillir, de bondir, si on peut poser et réfléchir avant, j'ai bien compris ce qui a été dit. Alors là, tu peux éclater de joie, peut-être, par exemple, ou bien ta tristesse, ou ta La rage qui est au fond de toi, peut-être qu'elle te permettra de voir les choses autrement et que tu ne la laisses pas sortir. Parce que tout d'un coup, tu comprends les choses. Puis là, tu entres dans la maîtrise de toi. Et qu'est-ce que c'est difficile ? Mais là aussi, chaque fois que tu n'y arrives pas, « Seigneur, j'ai besoin de toi la prochaine fois. » Ou tout d'un coup, tu essayes. « Yes, cette fois, j'ai réussi, tu m'as aidé. » Et tu bénis l'Éternel. Et on grandit. La maîtrise de soi. Ah, la maîtrise de soi. Tenir le coup, être robuste, avoir du pouvoir. Pas dans un sens de domination. Savoir se contenir. Jacques 3, 2 nous dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières. » Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Il est surprenant ce verset quand même, hein ? Capable de tenir tout son corps en bride. Et la maîtrise de soi, elle est aussi dans ces choses-là, mais aussi dans les émotions, les choses de la terre, de la chair qu'on a vues avant. Les tentations et toutes ces choses. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il ne mettait rien au-dessus de nos forces ? Il y a toujours un espace de choix. Il y a toujours, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand il y a la tentation, il y a toujours un espace. Apprenons à le découvrir. Demandons à Dieu, montre-moi cet espace pour que j'aie cette possibilité du choix. Et ça touche toute notre vie, avec nos blessures, nos rencontres, les difficultés, tout ce qui se passe. On est très attiré par le siècle présent, par ce qui se vit autour de nous, au point qu'on est d'accord d'entrer dans beaucoup de choses que le monde vit, au lieu de rester attaché à la parole de Dieu et de la vie qui en découle. Quand on vit ces choses, quand on enseigne ces choses plus loin, autour de nous, à notre descendance, c'est pas leur mettre un poids sur les épaules que de le faire. C'est leur montrer une sécurité, la sécurité qui est en Dieu, et cette sécurité qui donne la vie. Et là, tu as une pleine liberté qui tout d'un coup se dégage et qui te conduit plus loin. Comme le petit parc de l'enfant qui commence ses premiers pas. Il n'est pas en prison. Il fait juste qu'il ne va pas casser les verres de l'armoire d'à côté. Mais en tournant, au bout d'un moment, il découvre qu'il peut s'accrocher. Puis quand il s'accroche, tout d'un coup, il peut se lever. Et puis il commence peut-être pour certains de faire ses premiers pas. Jusqu'au jour où le parc, tu n'en as plus besoin, puis tu l'enlèves. C'est un petit peu ça, des fois. C'est un peu ça, enseigner les valeurs de Dieu plus loin. C'est cette sécurité qui te permet de grandir. Ça nous aide à tenir bon, à fonctionner d'une bonne manière, et petit à petit, les forces viennent pour résister à la tentation. N'oublions jamais que quand Dieu nous indique quelque chose, ce n'est pas pour écraser, c'est au contraire pour nous relever. Quand Dieu montre ce qui ne va pas dans ta vie, c'est justement pour te permettre de grandir. S'il te le montre, c'est qu'il t'aime tellement qu'il a envie de t'aider à aller plus loin. Le fruit de l'esprit. Le résultat de notre communion avec Dieu. C'est un chantier. C'est vrai. Mais que maintenant on puisse réfléchir à ça. Est-ce que ce matin on a envie de se dire « Oui, je veux le vivre toujours plus, ce fruit de l'esprit. » Est-ce que je veux que ma vie témoigne de l'action de Dieu en moi ? Est-ce que j'ai envie d'être cette petite lumière ou ce bon fruit qui va donner envie, qui va encourager, qui va bénir, qui va aimer ? Alors, est-ce que j'ai envie de rencontrer Dieu ? Est-ce que j'accepte le prix payé à la croix pour que je puisse le vivre ? Est-ce que j'accepte de renoncer au mensonge qui me dit « c'est impossible, moi j'y arrive pas » ? Est-ce que maintenant on peut dire « ok, je me réjouis Seigneur de voir quel goût ma vie va donner petit à petit dans ma marche avec toi ?» Qu'on puisse fermer nos yeux un instant, on va prier. Saint-Esprit, viens maintenant sceller ces choses dans nos vies, je te prie. Viens nous montrer comment toi tu nous vois, viens faire couler cet amour, cette bienveillance que nous avons chanté ce matin, viens témoigner du message de la croix, de ton amour pour nous ce matin. Réveillons-nous, la manifestation de ta présence. arrose par ta présence ce qui est déjà en travail dans nos vies. Viens te réjouir de là où nous en sommes, Seigneur, et montre-nous ta joie. Souffle, Saint-Esprit, viens nous travailler. C'est Paul qui le disait, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Que cela puisse devenir toujours plus grand. J'ai envie de nous encourager à l'assemblée de Versoix. Faisons un pas de foi maintenant. Continuons d'avoir les yeux fermés. Est-ce que tu veux commencer à voir autrement ce fruit de l'Esprit? Est-ce que tu désires grandir en imprégner ta vie? Est-ce que tu es OK de commencer à y croire et participer avec le Saint-Esprit à soigner ce fruit? Lève ta main si c'est le cas. Quand tu lèves ta main, imagine maintenant que Jésus est en train de te tendre la sienne parce que c'est la réalité de son cœur. Il te prend par la main. Saint-Esprit, descends maintenant. Couvre-nous de ta gloire. Baptise-nous de toi, Saint-Esprit. Couvre-nous de ta bonté. Fais tomber les écailles de nos yeux. Montre-nous comme toi tu vois. Nous voulons te remercier pour cette espérance et cette joie de marcher avec toi. Remplis-nous de ta puissance. Prends place, Seigneur. Merci pour cet héritage que nous avons reçu par ton sang coulé à la croix. Touche les cœurs de chacun de ceux qui se sont levés. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. La sève est en train de monter. Réjouissons-nous, c'est le printemps. Prenons-le comme un encouragement pour les temps qui viennent et qui suivent. Merci Seigneur. Amen.